journal Victoria Koussa. Bonjour Victoria.
Bonjour. Pancarte, slogan anti-gouvernement aux portes de la rentrée. Les antipasses redescendent dans les rues du pays et pas seulement dans les grandes villes. Dans les petites communes aussi où la vaccination contre le Covid peine à convaincre. Reportage dans le Finistère. Une crise sur tous les plans en Afghanistan. Les médicaments se font rares, les hôpitaux sont surchargés, notamment après l'attentat kamikaze à l'aéroport de Kaboul. Les États-Unis viennent d'ailleurs de frapper un responsable de la filière locale de l'État islamique 48 heures après. La France sort, elle, l'arme diplomatique, sommet régional en Irak en présence d'Emmanuel Macron. Aux Jeux paralympiques de Tokyo, une médaille d'or, une d'argent et quatre de bronze en quelques heures pour la France. Et puis, les derniers efforts sur l'ultra-trail du Mont Blanc avec des coureurs qui ont profité d'un peu de répit cette nuit.
Dans 20 minutes, le premier invité de la matinale, Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière. Jean Castex doit recevoir les partenaires sociaux mercredi. Quelle rentrée pour les syndicats après les annonces de la fin du quoi qu'il en coûte. L'entrée en vigueur de la réforme de l'assurance chômage et celle des retraites que le gouvernement souhaite mener à terme. On posera la question à 7h50 à Yves Verrier.
France Inter.
Ils maintiennent la pression avant la rentrée.
Les antipass et antivax se mobilisent de nouveau aujourd'hui pour le 7e week-end de suite. Près de 200 cortèges se préparent en ce moment. Et parmi les réfractaires au vaccin anti-Covid, certains finissent par craquer et se font vacciner à contre-cœur. Comme à La Feuillée dans le Finistère où la mairie met en place un centre éphémère, Mathias Pinguilly, l'un des nombreux villages du pays qui enregistre un très faible taux de vaccination.
Hier matin, André et Pascal sont allés se faire vacciner à contre-cœur.
Moi, je fais le vaccin pour aller au restaurant avec mes petits-enfants. Sinon, je n'aurais jamais fait.
Comme on n'a pas le choix pour faire le vaccin, c'était quand même plus facile de venir ici.
Comme ils maîtrisent mal les outils informatiques, pas question pour eux de prendre rendez-vous en ligne. Résultat, plus d'un tiers des habitants des Monts d'Arrée n'est pas vacciné. Jean-François Dumonteil, maire de La Feuillée.
Monsieur Monjal, le directeur de l'ARS, m'a appelé pour me dire qu'il convenait de réfléchir à faire quelque chose. Et là, on a décidé de rouvrir nos trois centres de vaccination éphémères sur Huelgoate, Brasparts et La Feuillée.
Les centres ont donc rouvert du 25 au 27 août, mais de nombreux créneaux n'ont pas trouvé preneur. Le maire est démuni.
L'objectif était d'atteindre au moins 300 personnes. Bon, malheureusement, on est un peu déçus parce que pour l'instant, à la fin de cette journée, il n'y aura probablement pas plus de 175 personnes de vaccinées. Les autres, je ne sais pas comment aller les chercher.
Pour ne rien arranger, les doses sont arrivées avec plus d'une heure de retard vendredi. Pas de quoi décourager Jean, ravi de se faire vacciner près de chez lui.
Quand j'ai vu sur le journal qu'il y avait la possibilité de se faire vacciner, je dirais, dans un centre éphémère, j'ai dit, je vais venir pour la deuxième vaccination. On est prêt à attendre trois quarts d'heure, une heure, deux heures, s'il faut. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était très pratique.
Comme lui, 170 personnes sont venues se faire vacciner. C'est déjà ça de prix, estime le directeur de l'ARS dans le Finistère, même si c'est beaucoup moins que ce qu'espérait la mairie. Convaincre les plus réticents s'annonce très compliqué.
Reportage France Bleu Brésil, signé Mathias Pinguilly pour France Inter. Des restrictions sanitaires qui, vous l'entendez, divisent les territoires. De nombreuses manifestations sont prévues dans des petites communes. Emmanuel Vigneron, géographe de la santé, tire une cartographie de la contestation.
Ça nous dit éloignement géographique, éloignement économique et social, éloignement culturel, ceux qui sont le plus loin des centres de commandement, des centres de décision, des centres d'information, sont aussi ceux qui sont le moins candidats à la vaccination. C'est souvent dans ces petites villes et alentours. Hein. Ce sont des endroits souvent où on est moyennement vacciné, ou en tout cas il y a suffisamment de gens qui ne sont pas vaccinés pour fournir des troupes à la mobilisation. Et à l'échelle nationale, que ce soit le sud-est qui soit le plus éloigné de la vaccination en moyenne bien sûr, eh bien cela peut s'expliquer par l'éloignement de Paris et par la perception, à tort ou à raison, d'une verticalité du pouvoir. Il peut y avoir un doute vis-à-vis de l'État qui se manifeste par un refus d'obtempérer au fond.
La situation sanitaire reste particulièrement critique aux Antilles. Couvre-feu et confinement partiel sont prolongés au moins d'une semaine à La Réunion jusqu'au 3 septembre pour le couvre-feu à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, où aucun confinement n'est envisagé pour l'instant.
En Afghanistan, première frappe des Américains contre un responsable du groupe État islamique après l'attentat de l'aéroport de Kaboul.
Contre-attaque dans la nuit, après celle qui a fait au moins 85 morts, dont 13 soldats américains. De nombreux blessés également dans les hôpitaux, qui manquent déjà de tout, matériel, médicaments. D'après l'Organisation mondiale de la santé, la pénurie est imminente. Louise Baudet, l'OMS cherche d'urgence des alternatives.
Ce dont l'Afghanistan manque le plus, c'est de matériel de traumatologie, d'équipements d'urgence pour les hôpitaux et de médicaments contre la malnutrition chronique des enfants, sachant que 18 millions de personnes, presque la moitié de la population, dépendent de l'aide humanitaire. Trois ponts aériens prévus par l'OMS cette fin août ont dû être annulés suite à la prise de contrôle des talibans il y a 15 jours et le double attentat de jeudi soir complique encore la donne. L'aéroport militaire de Kaboul n'est plus opérationnel pour au moins une semaine. Par ailleurs, aucune autorité de l'aviation civile ne fonctionne plus dans le pays. L'OMS espère du coup mettre en place un pont aérien avec la capitale du nord du pays, Mazar-i-Sharif. Elle compte pour cela sur l'aide des autorités pakistanaises. Pénurie de matériel et pénurie de main-d'œuvre. Nombre de soignants ont en effet quitté le pays ou veulent le faire. Cette fuite des cerveaux est un problème majeur, explique l'OMS, qui pointe aussi l'inquiétude des femmes. Nombre d'entre elles ne sont pas retournées travailler par peur de la répression talibane.
Louise Baudet pour France Inter. En Afghanistan, où un autre attentat n'est pas exclu, Washington appelle les ressortissants américains à quitter les abords de l'aéroport. Fin des évacuations d'Afghans vers Paris, la France lève son pont aérien avec un 12e et dernier vol la nuit dernière. Une soixantaine d'Afghans à bord, en plus des 2700 autres déjà accueillis à Paris. Nous ferons le point dans le journal de 8h. La contre-attaque française est-elle diplomatique, avec Emmanuel Macron qui est en Irak, à Bagdad, pour un sommet régional sur la stabilisation du pays, mais aussi et surtout sur la lutte contre le terrorisme après l'attentat de Kaboul. Bertrand Galichet, car l'État islamique sévit toujours dans la zone.
Seul dirigeant occidental à participer à cette conférence organisée par l'Irak et la France, Emmanuel Macron vient rappeler ici le rôle que Paris continue à jouer dans la lutte antiterroriste. Un message attendu dans la région après le massacre perpétré à Kaboul par le groupe État islamique. L'insécurité, souvent liée à Daesh, reste une préoccupation majeure en Irak. Il y a un mois, l'organisation islamiste a revendiqué un attentat qui a tué 30 personnes à Sadr City, banlieue chiite de Bagdad. Près de 600 militaires français, essentiellement pour les moyens aériens, le renseignement et la formation, participent à la lutte antiterroriste en Irak. Tous les pays limitrophes, sauf la Syrie, sont conviés à ce sommet régional. L'Irak se veut aussi médiateur, en favorisant le dialogue entre des États qui s'affrontent, comme l'Iran et l'Arabie Saoudite, une ambition émoussée par l'influence grandissante de Téhéran dans la vie politique irakienne. Des élections législatives sont prévues ici le 10 octobre. Bagdad, Bertrand Galichet, France Inter.
Des habitants se barricadent dans le sud des États-Unis.
La tempête Ida, qui se renforce progressivement après son passage à Cuba, doit bientôt frapper la côte. Avec des vents de plus de 200 km/h, l'ouragan risque d'être extrêmement dangereux, préviennent les autorités. L'état d'urgence est décrété en Louisiane, 16 ans après le passage de Katrina, qui avait fait plus de 1800 morts. Plus d'une vingtaine de morts au Bangladesh après la collision de deux bateaux sur un lac, un cargo rempli de sable contre un navire de passagers dans l'est du pays. Parmi les victimes, 6 enfants. Les recherches se poursuivent pour retrouver d'autres corps.
Mais quelle est belle cette série pour la France aux Jeux Paralympiques de Tokyo.
6 médailles en quelques heures, dont une troisième en or pour la France du triathlète Alexis Anquincan. Le plan s'est déroulé à la perfection, jubile le Normand. Amputé d'une jambe après un accident du travail, le plus rapide sur l'épreuve. 750 mètres de natation, 20 km de cyclisme et 5 km de course à pied. Et parmi les autres vainqueurs du jour, Marie-Amélie Le Fur ramène l'argent en saut en longueur. Eux affrontent l'une des courses à pied les plus éprouvantes au monde, les favoris de l'ultra-trail du Mont-Blanc. Encore quelques heures d'effort vers Chamonix, avec une arrivée à la mi-journée après un périple de 171 km. Et pour les booster, Jérôme Val, un endroit chaud les a accueillis dans la nuit à Courmayeur en Italie pour reprendre des forces.
Des applaudissements comme pour leur donner du baume au cœur. En pleine nuit, vers 2h du matin, les deux premiers de la course arrivent dans ce centre, un arrêt express.
C'était pas hyper rapide, je crois qu'on est à peu près au double de temps d'habitude.
Jean-Michel Fort-Vincent est l'assistant de François Daen, déjà triple vainqueur de l'épreuve. Il lui a préparé quelques tranches de jambon de Savoie.
On fait nos mini-débriefs en quelques mots pour... on a un peu l'habitude quand même à force. En tout cas maintenant, il est nickel parce que de toute façon, il est dans ce qu'il sait faire.
Certains changent de chaussures et de vêtements car après déjà 9 heures de course, le plus dur les attend. La nuit froide à près de 2500 mètres d'altitude, Aurélien Dunampalaz est arrivé 5e à Courmayeur.
Moi j'ai pas mis la veste, j'ai les manchettes et c'est tout. Ouais, un peu froid aux doigts, mais il n'y a pas énormément de vent.
Ouais, moins que froid là-haut, alors. 1 degré prévu. Hein.
Donc ouais, je mets pas d'assis, il faut. Pour l'instant, ça va, c'est même bon.
Pour la majorité, ces amateurs qui vont encore défiler ici dans la journée, ce centre va se transformer en véritable cocon, quelques minutes pour échapper à la douleur et à la souffrance. Courmayeur, Jérôme Val, France Inter.
Le risque incendie menace toujours le sud de la France. Vigilance élevée dans l'Hérault et le Gard tout le week-end. Tout comme dans les Bouches-du-Rhône, la préfecture interdit aujourd'hui l'accès à la plupart des massifs du département, notamment les Calanques ou le Cap Canaille. Vous êtes nombreux à rentrer de vacances, peut-être d'ailleurs des Calanques. C'est orange dans le sens des retours sur la route et même rouge pour ceux qui quittent le sud-est. Ce sera très compliqué en Ile-de-France jusqu'en début d'après-midi. Parmi les autoroutes à éviter aujourd'hui, l'A10 entre Bordeaux et Orléans, l'A7 entre Orange et Lyon ou encore l'A6 entre Lyon et Beaune.
Merci Victoria Coussa. Quel temps sur la route? Et bien on va poser la question.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Jean-Michel Golinski, le temps sur la route, c'est plutôt frais, parfois humide et gris au nord, hein, c'est ça?
Ah, exactement, c'est dans un flux de secteur nord-est engendré par une dépression située sur les Pays-Baltes. Les nuages débarquent sur un large quart nord-est du pays, en fait du nord de la Seine à la Bourgogne-Franche-Comté, donnant un ciel chargé, maillé de pluie éparse et parfois d'ondées orageuses dans le courant de l'après-midi près des frontières de l'Est, avec pour toutes ces régions un vent de secteur nord désagréable vers 50 km à l'heure. Le soleil le plus sera aujourd'hui pour les régions proches de l'océan, également dans le sud-ouest et de Rhône-Alpes à la Méditerranée, avec un vent vers 80 km à l'heure pour le Mistral et la Tramontane, et puis un risque d'averses orageuses cet après-midi sur le Var et des Alpes du Sud à la Corse. Dans des températures maximales de 20 à 22 degrés entre Brest, Lille, Strasbourg, Lyon, Paris et Tours, autant dire qu'il va faire assez frais. Il fera 24 à Nantes et La Rochelle, 26 en moyenne dans le sud-ouest et 28 sur le bassin méditerranéen.